Alors ce dimanche, la figure de Jean-Baptiste est introduite pour nous parler et pour proclamer un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Alors l'Avent, il peut être considéré comme un petit carême. Vous voyez, quand on parle de la conversion en temps de carême, on a tous une tête comme ça, on n'aime pas trop. Là, je profite de temps de l'Avent où on est tous dans la joie, on a tous notre calendrier de l'Avent, on mange tous nos petits chocolats, etc. Donc on est dans la joie, on avance vers Noël pour vous parler de la conversion. Dans le temps de l'Avent, elle est moins forte, mais elle est quand même présente. Vous voyez, le temps de l'Avent, c'est quand même un temps de conversion. Alors, qu'est-ce que c'est que la conversion ? Si je regarde le mot grec qui parle de la conversion, je vois que ça veut dire changer de manière de penser. C'est pas d'abord changer de manière d'agir. C'est d'abord changer de manière de penser. Et ensuite, alors, on va changer de manière d'agir. Alors, il n'est pas juste de dire, en fait, se convertir, c'est revenir à une conduite première. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, les personnages de l'Ancien Testament, ils vivent ça. On s'est éloigné de Dieu, on a été se prosterner devant des fausses idoles, et ben, voilà, il faut revenir. On va revenir vers le Dieu du Temple de Jérusalem. Ça, c'est le vrai Dieu, c'est notre Dieu. On s'est éloigné, et ben on revient, et parce qu'on revient, Dieu va nous aimer. La conversion dans le Nouveau Testament, et nous, on est des hommes et des femmes du Nouveau Testament, et ben c'est pas ça. C'est d'abord, on fait cette rencontre de Dieu, Dieu vient à nous, et ensuite, par cette expérience de cet amour de Dieu, on suit les chemins du Seigneur. Donc ça ne va pas être d'abord de revenir à une morale, la conversion, mais ça va être de suivre une personne. Ça va être de suivre Jésus. Deuxième petit point dans le préambule, c'est qu'en fait, il n'y a pas de conversion s'il n'y a pas de désir de conversion. Il n'y a pas de sainteté s'il n'y a pas de désir de sainteté. Pourquoi est-ce qu'il y a un désir ? Parce qu'on a expérimenté que c'était bon. En fait, c'est bien de se convertir. Hein. C'est vachement bien. Pour nous, pour les autres aussi. Hein. Les autres, ils diront. Hein. Oui, c'est très bien de se convertir. Ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien au monde entier. Ça fait du bien au corps de l'Église. Voilà. Donc, désirons aussi cette conversion. Alors, comment est-ce qu'on va se convertir ? J'ai relevé trois points, c'est pas du tout exhaustif, mais c'est trois points qui viennent de l'évangile du jour. Voyez comment on a introduit le ministère de Jean-Baptiste. Une longue litanie avec les grands chefs, les grands personnages de l'époque, ceux qui ont le pouvoir politique, ceux qui ont le pouvoir religieux, toutes les régions, voilà, sur lesquelles ils dominent. L'empereur Tibère qui est à Rome, Ponce Pilate qui est en Judée, Hérode qui est en Galilée, et puis les autres on les connaît un peu moins bien, Lysanias, etc. on connaît moins bien. Et à la fin on entend quoi ? La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean. C'est-à-dire la parole de Dieu ne fut pas adressée à Tibère, à Ponce Pilate et à Hérode. La parole de Dieu n'a pas choisi les puissants et le lieu bien en vue. La parole de Dieu, elle s'est trouvée une terre d'accueil au désert, dans un homme absolument lambda qui a décidé d'aller au désert, et elle tombe sur Jean. Alors Jean, il est fils de Zacharie, et on se souvient le début de l'évangile de Luc, ça se passe dans le temple, Zacharie c'est un prêtre, et donc Jean-Baptiste, il est de famille sacerdotale, donc normalement son office, il ne doit pas le faire au désert, il doit être au temple. Pourquoi est-ce qu'il part au désert ? Parce que les prêtres à l'époque sont corrompus par le pouvoir romain qui est en place, parce que ça domine tout, et donc du coup il y a un grand mélange, et plus aucune personne dans le peuple ne croit dans le sacerdoce qui s'exerce au temple. Donc on part au désert, et on part au désert pourquoi ? Pour mimer cette grande traversée du désert, et dans la région du Jourdain, pour mimer cette entrée en terre promise. On part au désert, on ne va pas partir 40 ans, mais on part quelques jours pour remimer cette grande traversée du désert et ce passage du Jourdain avant d'entrer en terre promise, dans une terre nouvelle, dans une vie nouvelle. On n'est plus sous l'esclavage de Pharaon, on est sous l'esclavage du péché, alors il faut se convertir, on part au désert, on traverse le Jourdain. Donc se convertir, ça veut dire quitter un lieu. Se convertir, c'est quitter. Quitter un lieu, quitter des biens, quitter des personnes. Jean, il est fils de Zacharie, donc il quitte son père. Il quitte l'office qu'il devait avoir au temple. Il quitte quelque part son métier pour aller au désert. Et donc la conversion, elle marche toujours avec un certain inconfort. Vous voyez, je vois que quelqu'un est converti par le fait qu'il se détache de quelque chose. Pas parce qu'il a vécu des grandes émotions dans je ne sais quel rassemblement, au JMJ ou je ne sais quoi. C'est pas ça qui convertit, ça peut porter, ça peut faire un effet catalyseur, mais c'est pas ça qui convertit. Vous voyez, on marque cette conversion parce qu'on s'est détaché de quelque chose. Peut-être qu'à Noël, certains vont devoir se détacher de quelque chose. Des personnes qui vont être là. Il y a l'apéro qui est prévu à 18h. Ben, très bien, mais moi je vais à la messe. Ah, il va falloir se détacher. Et on va devoir t'attendre. Ben, super, super. Toujours les mêmes qu'on attend. Ben, voilà. C'est un petit détachement. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé de se convertir. On a décidé de suivre des chemins nouveaux, de suivre le Seigneur. Ça veut dire aussi, peut-être, quitter des situations qui sont un peu mauvaises. Il y a un théologien qui dit ceci, hein, « Dire oui, c'est dire non à non. » Dire oui à Dieu, c'est dire non à tout ce qui nie Dieu. Pour m'attacher à un bien, je dois peut-être d'abord me détacher d'un mal. Et donc ça exige de moi de vivre quelquefois des ruptures. J'ai un peu magouillé dans mon boulot, j'arrête de magouiller dans mon boulot. Quand je rentre le soir, je suis pas en train de faire une confession, hein. Quand je rentre le soir, je bulle un peu, vous voyez, je suis là, bon, j'allume la télé, je me mets devant mon ordinateur, je vais sur les réseaux sociaux, voilà, et puis je passe une demi-heure, une heure, je vois des sourires, donc ça rejoint certaines personnes, tant mieux, voilà, il n'y a pas que moi. Je décide à la place, il faut remplacer, il ne faut pas laisser un vide. Hein. Si on laisse un vide, il y a sept démons qui vont venir, hein. C'est un autre évangile qui le dit. Donc je dois remplacer ça. Je remplace par quoi ? Je remplace par un temps de prière. Chérie, on va arrêter de multiplier les dîners mondains. On va remplacer ça par un temps en couple. C'est pas beau ça ? On va remplacer ça par un temps en couple. Vous voyez, il y a plein de petites astuces comme ça. Mais il faut remplacer. Il ne faut pas laisser un vide. Il faut remplacer ce vide, ces petites situations voilà, où on pourrait mieux faire. Je ne dis pas que c'est mal. Il y a des fois, c'est un peu mal. Mais on peut remplacer et certainement faire mieux. Ça s'appelle la conversion. Et quelquefois, la grâce nous coûte. Il faut accepter que ça nous coûte un petit peu. Donc ça, c'était le premier point. Les deux autres points, je vous rassure, c'est plus rapide. Le deuxième, c'est peut-être d'accueillir la parole de Dieu. La parole de Dieu pour ce qu'elle est. Voyez, la parole de Dieu, elle cherche une terre d'accueil. Je l'ai dit au début. Hein. Elle n'en trouve pas chez les puissants. Elle trouve Jean qui part au désert et qui accueille la parole de Dieu avant d'aller la prêcher lui-même. Dimanche prochain, on aura toute cette prédication, tous les groupes qui viendront les uns après les autres. Mais alors, nous, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et Jean leur répondra. Il y a une primauté de l'accueil de la parole de Dieu avant de la prêcher. Il faut d'abord l'accueillir. Pour l'accueillir, il faut peut-être aussi cesser une certaine superficialité. Finalement, je ne sais pas trop ce que Dieu me dit. Enfin, ce n'est pas très clair. Je ne sais pas trop les points que j'ai à convertir. En fait, je ne sais pas trop non plus ce qui blesse les autres. Puis finalement, finalement, je ne suis pas pire que les autres. Et puis en gros, tout va bien. Vous voyez, on fait vite ce raisonnement-là. On part d'un point où on ne voit pas trop. Et puis finalement, on dit tout va bien. Donc, je n'ai pas à me convertir. Donc, on arrête cette superficialité-là. On arrête de se trouver des excuses. Et on essaye d'aller au bout de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous fait aller au bout de la parole de Dieu ? C'est de croire que quand quelqu'un vient lire ici à Lambon la parole, la première lecture, le psaume, la deuxième lecture et l'évangile, c'est Dieu qui nous parle. Quand le prêtre s'agite à l'embon pendant son homélie, c'est Dieu qui essaye de vous parler. Par mes pauvres mots, c'est pas parce que c'est moi qui prêche le dimanche, mais c'est ce que dit l'évangile, pas l'évangile, mais le Concile Vatican II. Il dit ça, quand quelqu'un vient prêcher ou parler, proclamer la parole de Dieu à l'embon, c'est Dieu qui parle. Voilà. Donc il y a la parole de Dieu qui veut rejoindre chacune de nos vies. Et on a aussi un petit problème, c'est que, en fait, on oublie 90 à 95% des choses qu'on écoute. Donc quand on est à une chose qui est importante, qu'on veut la garder, eh ben, on peut l'écrire, on peut prendre un carnet à côté et l'écrire. Par exemple, écrire « Quelle est ma parole de l'Avent, du temps de l'Avent ?»« Quelle est la parole qui va me nourrir, qui va me travailler, qui va me convertir ?» Ça, je peux l'écrire sur un carnet. Pour chaque grand temps, je peux décider d'avoir une parole de Dieu qui va me nourrir pendant le temps de l'Avent, pendant le temps du Carême, pendant le temps Pascal, pendant le temps de Noël, etc. Une autre chose qui peut nous convertir, c'est ce que dit l'Évangile, préparer le chemin du Seigneur en droit ses sentiers. Est-ce que franchement, les chemins tortueux que nous prenons tous les jours vont empêcher le Seigneur de venir ? Je pense pas. Le 21 décembre, on entendra dans la première lecture, il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Bon alors pourquoi aujourd'hui tu nous dis qu'il faut abaisser les montagnes, niveler toutes les collines, tout ça ? Si tu cours dessus, tu vas venir. Donc nous, il n'y a pas besoin de préparer trop les chemins, les sentiers, pas besoin de trop niveler. Autre chose, hein, tu traces pour le juste un sentier droit. Si c'est toi qui traces, c'est pas moi. Et donc on comprend que le premier à vouloir et à travailler pour notre conversion, eh ben c'est Dieu lui-même. Et donc quelle va être mon attitude à moi ? Ça va être d'abord d'être une attitude de passivité, une attitude de consentement. Accepter peut-être d'abord les situations qui sont un peu plus pénibles, les situations qui sont difficiles dans notre vie. Alors que j'en sois le coupable, que ça vienne de mon péché, les conséquences de mon péché, ou que ça vienne de maladie, c'est pas Dieu qui envoie la maladie. Mais Dieu, voyez, va faire ceci, c'est qu'il ne gaspille rien de ce qui nous arrive. Cette phrase de l'Épître aux Romains, « Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. » Tout. Donc il ne gaspille rien. Et Dieu seul, en plus, est capable de tirer d'un mal un bien. De toute situation de mal, des situations pénibles, des situations difficiles, des choses lourdes qu'on peut porter, lui seul peut tirer de ce mal un bien. Voilà, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ça ? Voilà, je répète ces trois points. Le premier, se convertir, ça veut dire quitter, se détacher de choses, de situations, de personnes quelquefois. Se convertir, ça veut dire accueillir la parole de Dieu pour ce qu'elle est, et ça veut dire enfin consentir, accepter les événements qui sont peut-être quelquefois un peu plus douloureux. Amen.